on va commencer par se présenter un peu. Je suis Laurent Delavigne du Mouvement National des Chômeurs et Précaires, MNCP, et de l'ENU, le Réseau Européen des Chômeurs. À côté de moi, il y a Angela Klein, qui est des Euromarches d'Allemagne, Daniel Kui, qui est de la PACE, une organisation nationale de chômeurs en France également. Il y a Piet van Lende, qui est des Euromarches de Hollande. 12 interventions, donc ça veut dire des interventions très courtes. Alors on va commencer tout de suite, je pense, en passant la parole à Christophe Aguiton.
Merci. Comme vous le voyez, l'acoustique n'est pas très bonne, mais on va faire avec. Donc, les marches européennes aujourd'hui fêtent les 10 ans de leur existence, et je voudrais, avant de rentrer sur deux problèmes politiques qui mériteraient peut-être qu'on y réfléchisse ensemble, rappeler deux choses qui ont été importantes dans l'histoire des marches. La première, c'est le lien entre les marches et les luttes sociales concrètes, en particulier celles des chômeurs et précaires. Et je voudrais simplement rappeler l'exemple français, mais aussi allemand, puisque les deux ont été très liés. L'exemple français et allemand du mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98, dont nous fêtons aussi en ce moment les 10 ans, puisqu'ils ont commencé début décembre à Marseille, en particulier dans le sud de la France. Mais ce qui a été, en tout cas en France, je laisserai nos amis allemands dire ce qu'ils ont vécu, très important, c'est l'expérience accumulée par les marcheurs chômeurs et leur capacité d'utiliser l'expérience de la marche pour diriger le mouvement des chômeurs. Pour ceux qui, à l'époque, avaient été dans les marches européennes et regardaient la télévision pendant le mouvement des chômeurs, tous les jours, nous avions au journal télévisé nos amis des marches, qui étaient les porte-parole, qui dans le Nord, qui à Lyon, qui à Toulouse. Et cette capacité de militants chômeurs de prendre en charge leur propre mouvement et de diriger a été, je pense, intimement liée à l'expérience qu'ils ont pu accumuler pendant les 2 mois de la marche européenne de 97. Deuxième chose à rappeler aussi, avant de venir aux deux problèmes politiques, c'est le fait que les marches européennes ont été un des cadres, pas le seul, loin de là, mais un des cadres qui a permis la constitution des contacts qui a donné naissance au mouvement altermondialiste et aux forums sociaux. Pour prendre quelques-uns de ceux qui sont dans la salle, la KCTU, le syndicat coréen bien connu, était à Amsterdam avec nous en 97 et ils étaient sur le podium à l'accueil des marches. Pour prendre la deuxième démarche européenne, celle de 99, celle qui a été à Cologne, le MST, le mouvement des sans-terres, avait envoyé une équipe de 2 personnes qui ont marché avec nous toute la longueur des marches, toute la durée des marches, et qui ont ainsi permis de créer un lien très fort avec ce qui se passait dans le cadre latino-américain et ce qui se passait chez nous en Europe. Et les contacts européens que nous avons tissés entre nous ont été pour beaucoup dans la constitution de l'arc de force qui a appelé aux manifestations de Gênes, d'abord en juillet 2001, puis à la constitution du Forum social européen dans la lignée et la foulée du Forum social mondial. Alors, il y a eu d'autres cadres à l'époque, l'Alliance hémisphérique en Amérique latine, des regroupements comme l'Alliance mondiale des peuples ou l'Action globale des peuples qui s'était créée en 1995 à Genève, d'autres de ce type, mais les marches ont fait partie de ces initiateurs qui ont permis la constitution des premiers réseaux d'avant Seattle. Voilà donc les deux points un peu d'introduction que je voulais pointer, parce qu'elles situent l'intérêt de ce que nous avons fait dans les années 90 à l'aune, à la mesure de ces deux liens qui, à mon avis, sont décisifs, les luttes sociales d'un côté, mais aussi la constitution de ce mouvement mondial qui a émergé avec le Chiapas, puis avec Seattle. Les deux problèmes maintenant, mais c'est des choses qu'on va discuter, je pense, en permanence dans la journée, c'est d'abord pourquoi les marches européennes ne sont apparues que dans la décennie 90, alors que l'Union européenne avait déjà plus de 30 ans d'existence. Je pense qu'il y a eu un vrai tournant à la fin des années 80, début des années 90, sur deux questions essentielles. pas tant le chômage qui existait déjà avant dans de nombreux pays, je pense à l'Angleterre, mais aussi à la France et des tas d'autres pays, mais l'affaire des services publics, qui n'a pas touché directement au premier chef les chômeurs, mais qui très vite les a touchés, puisque les services publics, c'est ce qui protège les plus faibles d'entre nous, c'est ce qui donne un accès égal à tous aux droits. Et puis, avec la monnaie unique, l'euro et Maastricht, la constitution d'un ensemble monétaire et donc financier et économique qui a imposé des contraintes fortes sur les États et qui a été l'alibi utilisé par les États pour réduire les politiques sociales dans tous les pays européens. Et ça a marqué un vrai tournant, puisque l'approche sur les questions européennes avant le début des années 90 n'était pas la même du point de vue des mouvements sociaux. Certains étaient contre l'Europe pour des raisons idéologiques. Il y avait des mouvements forts dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, parce que le modèle social scandinave était jugé meilleur que ce que nous proposait ou ce que leur proposait l'Europe. Mais l'essentiel du mouvement syndical, et je pense à Georges de Bune entre autres, avait soutenu en fait la Constitution européenne avec l'idée qu'après la guerre, il fallait trouver une réponse coordonnée et solidaire des peuples européens. Alors évidemment, l'Europe qu'ils ont constituée à l'époque n'était pas ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voulaient, mais le tournant de la fin des années 80, début des années 90, a été un tournant radical. Et il nous a imposé de trouver les moyens de lutter ensemble au niveau du continent. On n'a pas été les tout premiers, c'est ceux qui aujourd'hui sont à Sudrail et qui à l'époque étaient à la CFDT cheminots, qui avaient commencé avec une grève des cheminots dès le début de la décennie 90, sur la défense des services publics, mais on a été juste après avec l'ENU, le réseau européen des chômeurs, qui s'était aussi constitué à la fin des années 80, début des années 90. On a essayé de continuer ce qui avait été ouvert, tant par les cheminots que par l'ENU, en donnant un cadre de coordination entre mouvements sociaux, chômeurs, mais aussi syndicalistes, et mouvements dits citoyens, pour employer la formule française. Mais ça mérite qu'on s'y arrête pour comprendre aujourd'hui quelle est l'étape dans le développement néolibéral de l'Union européenne et quelles sont les échéances devant nous, mais je ne vais pas être plus long pour ne pas monopoliser la parole. Le deuxième problème politique que je voulais soulever a été un peu compliqué pour les marches à la fin de la décennie 90. Si vous vous rappelez, en 97, les marches ont été probablement la première manifestation européenne réellement internationale, hein, puisque les syndicats en avaient fait un peu, mais qui étaient moins coordonnés, moins liés intimement que nous ne pouvions l'être à travers les marches. Mais dès 99, au moment de la deuxième marche des chômeurs, on s'est retrouvé à Cologne avec une situation étonnante, puisqu'il y avait en fait deux manifestations à 15 jours d'intervalle. Nous étions là avec les mouvements sociaux, les mouvements de chômeurs, pour le premier des sommets de Cologne, celui de l'Union européenne, et nous avons réuni plus de 30 000 personnes. Mais quelques semaines plus tard, 15 jours si mes souvenirs sont bons, il y avait le G8 qui se tenait dans la même ville, et des militants surtout issus d'ONG étaient en train de constituer un cadre de mobilisation qui allait lui aussi être très important dans les forums sociaux et le mouvement altermondialiste. Et on a eu à l'époque des vraies interrogations. Des interrogations de trois natures. La première était de savoir si on arriverait, parce qu'on sentait bien la montée de ce mouvement mondial, à conserver un axe spécifique sur les questions européennes. Pour tout vous dire, je crois qu'on a un peu perdu cette bataille au tout début des années 2000, avec Gênes, avec les forums sociaux, puisque là c'est clairement l'échelon monde qui était dominant et qui nous a mobilisés. Mais avec le référendum et la charte dans laquelle les marches sont très impliquées, je pense qu'on est en train de retrouver ce chemin qui est celui d'une articulation entre une mobilisation mondiale et une mobilisation européenne. On avait un deuxième problème qui a été lui vite réglé mais qui nous inquiétait en 99. C'est que les ONG n'ont pas la même histoire que les mouvements sociaux. Surtout dans la décennie 90, où pour beaucoup d'ONG, la mondialisation et la chute de l'Union soviétique étaient des choses positives. N'oubliez pas qu'à Rio de Janeiro, il y avait autour de l'idée de la gouvernance mondiale une espèce d'alliance entre l'ONU d'un côté et des ONG qui concevaient leur mobilisation comme un appui à ces institutions internationales. Et donc on avait un peu peur d'une mobilisation monde qui soit en fait, le terme réformiste n'est pas forcément le bon terme, mais en fait extrêmement modérée et qui s'inscrive en fait dans le chemin des institutions internationales plus que dans la contestation de ces institutions. Mais là, l'affaire a été vite réglée, puisque c'est ceux de Seattle qui ont montré qu'on pouvait à la fois être au niveau mondial contre l'OMC et radical dans les formes d'action et dans les thèmes qu'ils portaient. Et je pense que le fait que les marches se soient inscrites tant à Nice que plus tard à Gênes, dans ce mouvement-là, correspondait au fait que le tournant de Seattle avait été bien accepté par nous tous. Mais il restait malgré tout un troisième problème. Et je pense que celui-là, nous ne l'avons toujours pas résolu. C'est celui de la place des précaires et des chômeurs dans ce mouvement mondial. Il n'est pas résolu parce que la couleur, d'une certaine façon, d'une mobilisation est portée par ceux qui l'initient, qui en sont à la tête, qui sont les premiers à l'exprimer. Et Seattle, c'était avant tout un mouvement étudiant blanc, au point que un des premiers textes critiques sur Seattle était en anglais « Where was the color in Seattle ?»« Où était la couleur à Seattle ?» puisqu'il n'y avait ni noir, ni chicanos, et très peu d'asiatiques. Et cette difficulté à faire percer la question sociale dans le mouvement altermondialiste a été une question lancinante pour nous tous pendant toutes les années des forums sociaux et des grandes manifestations à Gênes, à Prague ou même jusqu'à Évian et récemment encore à Rostock en Allemagne. Donc il y a là un enjeu qui nous revient, mais pas qu'à nous, qui revient aussi à des réseaux comme l'ENU qui est ici et qui je crois peut jouer un rôle important, qui revient aussi à Novox qui a été constitué dans toute une série de pays, entre autres avec les militants du DAL et d'autres associations et dans lequel on se retrouve aussi, pour pouvoir faire qu'un pôle et un axe important dans ce mouvement mondial exprime réellement les questions sociales et pour ce qui nous intéresse ici, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, la précarité et les exclusions. Voilà à mon avis quels sont les enjeux qu'il va nous falloir discuter et affronter, mais qui donnent un cadre intéressant puisqu'on est dans un réseau et dans un mouvement qui nous dépasse largement et qui a une énergie tout à fait considérable comme on a pu tous le voir dans les forums sociaux et les manifestations. Je vous remercie de votre attention.
Merci Christophe. Maintenant aussi, nous avons des amis coréens qui sont ici. Ils vont faire une petite intervention de 5 minutes, pas plus. Désolé pour une histoire de timing. Ce sont des Coréens qui ont été licenciés par la société Lavarge.
Hello.
먼저 이렇게 귀한 자리에 초대해 주셔서 너무나 고맙습니다.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être invité, de nous inviter.
네, 저희들은 한국에서 온 비정규직 해고 노동자들입니다.
Nous sommes les travailleurs licenciés en sous-traitance, en particulier du groupe Lafarge Ciment en Corée du Sud.
Et 저희들은 한국에서도 지금 비정규직 문제로 심각한 지경에 처해 있습니다.
En Corée du Sud, il y a beaucoup de phénomènes de la précarisation, sous-traitance, tout ça.
비용 절감을 한다고 해서 정규직들을 대량 해고를 하고 그 자리에 비정규직들로 채워놓고 이런 것들이 지금 한국에서 너무나 자연스럽게 일어나고 있으며 이게 심각한 사회 문제로 지금 발생하고 있습니다.
En Corée du Sud, pour économiser le prix de la production, l'entreprise souvent transfère les travailleurs stables en les travailleurs en sous-traitance. C'est un phénomène assez généralisé en Corée du Sud, comme tout le monde.
예, 지금 한국에서는 비정규직 노동자들을 보호하겠다고 법안을 만드는 게 있습니다. 그런데 그것은 2년이 지나면은 정규직으로 채용을 해야 됨에도 불구하고 기업들은 2년이 되기 전에 대량 해고를 하고 있습니다. 그런데 그 대량을 해고를 했을 때 기업들에게 돌아가는 것은 얼마 안 되는 벌금밖에 없는 것입니다.
En Corée du Sud, en ce moment, il y a une loi qui protège les travailleurs précaires, c'est-à-dire qu'après 12 ans d'ancienneté, l'employeur doit embaucher les travailleurs en sous-traitance en tant que les travailleurs stables. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de dispositifs de garantir la poste, c'est-à-dire que l'entreprise abuse cette loi, c'est-à-dire après 12 ans de travail des travailleurs, l'entreprise licencie massivement les travailleurs en sous-traitance au prix de l'amendement assez modéré.
네, 저희들도 비정규직 노동자들이었으며 그런데 저희들이 그 정규직계 그 반도 안 되는 임금을 받고 또 너무나 장시간 노동을 하는 것에 대해서 이제 그 노동조합을 만들게 됐습니다. 그런데 그것이 노동조합을 만드는 것이 그 저희들이 그 개선을 하기 위해서 노동조합을 만들었지만 이것은 그 한국 법에도 나와 있듯이 그 기업이 하청 노동자들을 해고를 해도 전혀 어디에서도 보호해줄 수 없는 것이 문제입니다.
Bon. En fait, en tant que travailleur en sous-traitance, nous avons perçu à peu près 40% de salaire vis-à-vis des travailleurs. Vis-à-vis des salaires des travailleurs stables. Et aussi, nous étions soumis à la condition de travail, c'est-à-dire à peu près 100 heures de travail par semaine, et aussi à peu près le SMIC coréen. C'est pour ça que nous avons monté notre syndicat, mais après avoir monté notre syndicat, nous sommes licenciés, et aussi notre boîte a été fermée, liquidée. Mais malgré tout cela, il n'y a pas beaucoup de dispositif qui protège les travailleurs licenciés.
네, 저희들이 한국에서 일할 때는 150시간이 넘는 장시간 노동을 연장근로를 했었고 그 최저임금 받게 되지 않는 그런 임금을 받고 일을 했었습니다.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, à part 240 heures de travail de base, on est obligé de travailler à peu près 150 heures de travail supplémentaire et aussi nous avons perçu le SMIC coréen.
네, 그런데 아버지 기업은 그 저희들이 다니던 하청 회사를 하나 폐업을 시켜버리고 저희들이 일하던 일자리를 다른 데 달아나주고 노동조합에 가입했던 저희들만 지금 20개월이 넘도록 이렇게 해고를 해서 저희들이 지금 그 프랑스라고 하는 먼 나라까지 원정투쟁을 오게 됐습니다.
Bon. Après avoir monté notre syndicat, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre boîte a été fermée et aussi nos anciens camarades ont été reclassés et réembauchés chez d'autres sous-traitants internes sous la condition de démissionner du syndicat. Donc pendant plus de bon, cette affaire a été commencée en mars 2006, c'est-à-dire que pendant plus de 19 mois, nous avons lutté et aussi nous sommes sommeurs pendant plus de 19 mois sans ressources. Donc nous avons décidé de venir ici en France pour négocier directement avec la direction de la FAGE et aussi pour faire connaître notre situation infernale aux camarades européens.
네, 저희들이 알리고 싶었던 것은 기업이 정상적으로 기업 경영을 해야 됨에도 불구하고 그 정규직들을 비정규직으로 만들고 장시간 노동을 시키고 마치 노예와 같은 삶을 강요하는 것을 알리기 위해서 그리고 라파지 기업이 분명히 기업 경영을 잘못하고 있다는 것을 알리기 위해서 프랑스에 왔습니다. 충분하게 저희들은 알렸다고 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 저희들 문제가 해결되지 않고 돌아가는
Bon, ce que nous voulions faire connaître notre histoire, c'est que la fermeture illicite de l'entreprise et aussi la non-reconnaissance du syndicat, de l'activité syndicale et aussi le bas salaire, la longue durée de travail, tout ça. Mais après arriver en France, nous avons lutté pendant 3 mois mais nous sommes obligés de repartir en Corée du Sud puisque notre visa est déjà expiré avant quelques jours. Donc, malgré tout cela, nous sommes très heureux de faire connaître notre histoire.
Et puis, nous avons dit 문제 해결 못하고 돌아가지만 처음 시작할 때 노동조합을 만들었을 때 마음 그대로 끝까지 라파지 기업에 대해서 저희들이 싸우고 그리고 반드시 승리하는 끝날까지 저희들은 싸우겠습니다. 그리고 귀한 자리에 초대해 주셔서 너무나 고맙습니다. 감사합니다.
Même si nous rentrons en Corée du Sud, nous allons lutter jusqu'au bout en Corée aussi pour vous dénoncer le comportement de la direction de l'AFAJ Corée et l'AFAJ France. Mais en tout cas, pour terminer, je voudrais vous remercier encore de nous inviter. Je pense que notre lutte, comment dire, nous avons le même combat contre la précarité, contre le chômeur et aussi tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour terminer, je voudrais vous saluer d'une façon coréenne.